le 10 de l'évangile, on avait le discours d'enfant mission. Il y avait le discours sur la montagne, 5 à 7, le chapitre 10, le discours d'enfant en mission. Et je vous avais dit pour terminer qu'il a un aspect trinitaire dans une mission mise en perspective trinitaire. Christ d'avant la passion résurrection, mais aussi lorsqu'il dit que l'esprit de votre Père parlera en vous au moment des persécutions. Une mission en perspective ecclésiologique, puisque les disciples reçoivent des consignes pour leur situation qui sera celle dans le temps d'après Pâques. Et enfin, il y a une dimension eschatologique, c'est-à-dire tournée vers la fin des temps, puisque déjà le Seigneur, à l'horizon de la mission, entrevoit la tension de l'histoire jusqu'à la venue du Fils de l'homme. Vous n'aurez pas fini le tour des villes d'Israël jusqu'à la venue du Fils de l'homme. Donc nous avions vu ce discours d'envoi en mission et nous allons passer à la section suivante dans l'alternance générale du plan. Vous vous souvenez qui articule discours précis.
Chapitre 2, 5-7. C'était le serment sur la montagne. 8-9, toute une série de gestes de puissance de Jésus. Il appelle à la foi, donc c'était une section de récit. Le chapitre 10, c'était de niveau 1 un discours. C'était le discours d'enfant en mission. Et nous avons fait dans la section du chapitre 11-12, qui est de niveau une portion de récit. Alors, dans les chapitres 3 et 4, vous en souvenez, nous étions en présence déjà du baptiste. Il y avait le baptême de Jésus dans le Jourdain, ses portations, et puis la figure de Jean-Baptiste. La figure de Jean-Baptiste qui va revenir, il y a une question, à propos de son lien avec Jésus dans notre section. On va voir réapparaître Jean-Baptiste. Il va y avoir un aspect de tentation au désert, et confronté avec le Satan, on va l'accuser d'agir par Béelzéboul, une tentation, une mise à l'épreuve de la part de ses contradicteurs. Alors, le chapitre 8-9, vis-à-vis des gestes de puissance que posait Jésus, il s'agissait de se positionner dans la foi, et déjà Jésus interpellait ceux qui ne consentait pas facilement à l'accueil de son identité à travers les gestes qu'il pose et déjà s'annonçait une perspective de jugement. C'est ça le vocabulaire du jugement pointait le bout du nez, si je puis dire, qui va se développer fortement, on va le voir, dans le chapitre 12. Déjà, Jésus était en butte à certaines récriminations, qui peut pardonner contre ce qu'il fait, et l'aspect de controverse. Là, est fortement marqué, là, au chapitre 17, dans cette section de récits ultérieurs. Et puis, au chapitre 8, on avait une citation décisive en 8-17, qui était une citation d'Isaïe. Si je la relis, c'était Isaïe 53, en 8-17. D'une parole, il jeta les esprits, tous ceux qui avaient mal, en vue que s'accomplisse ce qui fut dit par Isaïe le prophète, disant, une citation d'accomplissement, « Lui, il a pris nos faiblesses et nos maladies, il les a ôtées. » On est en Isaïe 53, c'est le quatrième chant du serviteur. Quatrième chant du serviteur. Ça, c'était en 8-17, une citation d'Isaïe. On va avoir, semblablement, dans notre section, en 12-18 à 21, cette fois-ci, une autre citation d'Isaïe, qui va être tiré d'Isaïe 42. Et là, on sera dans le premier chant du serviteur d'Isaïe.
En 12, 18, 21, je prends ce passage.
afin que s'accomplit ce qui fut dit par Isaïe, le prophète, disant, toujours la même formule d'introduction et de citation d'accomplissement, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui l'âme se complaît, etc. » Donc une citation d'Isaïe au chapitre 8 et au chapitre 12, et aussi une citation, cette fois-ci c'est la même, qui est reprise deux fois, en 9.13, on a la citation de Osée 6.6, qui est propre à Matthieu, où Jésus dit, allez apprendre ce que veut dire, c'est la miséricorde que je veux et non pas le sacrifice. Donc en 9.13, ce n'est pas... Ceux qui ont force n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont ceux qui ont mal. Alors, apprenez ce que veut dire « Je veux la pitié, non le sacrifice, car je suis venu appeler des justes et non des pécheurs. » Donc, l'appel de Jésus aux pécheurs, comme manifestant sa pitié, sa miséricorde pour eux. Eh bien, cette citation d'Osée, qui est propre à Matthieu, qu'on ne trouve pas chez Marc et Luc, est encore reprise en 12.7. Mais dans quel contexte cette fois-ci, donc la même passage, 7. Si vous aviez connu ce qu'est, c'est la même manière de s'exprimer, si vous aviez connu ce qu'est, ce que veut dire je veux la pitié et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné les non coupables. Donc, une miséricorde de condamner à tort aussi bien les pécheurs qu'ici les disciples de Jésus qui sont appris à partie parce qu'ils craignent des chants le jour du sabbat. Donc on voit bien que entre cette section de récit précédente ici et la section de récit ici, il y a quelques points de convergence, mais on va voir que la notion de jugement va être beaucoup plus appuyée et l'aspect de controverse beaucoup plus marqué. On avance dans l'Évangile. Ça, c'est pour une mise en situation globale. Alors, le lien avec ce qui précède immédiatement, c'est-à-dire le chapitre 10, au chapitre 10, on a l'annonce pour les disciples, vous vous en souvenez, d'opposition, de persécution, et on voit que dans nos chapitres, bien, ils vont commencer par être vécus par Jésus lui-même, face à, aux objections et aux critiques, voire aux blasphèmes des pharisiens à son encontre. Déjà dans le chapitre 10, le discours d'envoi en mission, c'est ce qui sait la nécessité d'un retournement, d'une conversion, qui était signifié par ce centre. Un disciple n'est pas au-dessus du maître, ni un serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple devienne comme son seigneur, et le seigneur va endurer opposition, difficulté. Donc, il y a un changement de perspective. Alors, le chapitre 10, je vous le disais, avait une discrète note trinitaire, là où Jésus dit en 10-20, « L'Esprit de votre Père parlera en vous ». Précédemment, dans l'épisode de la théophanie, la manifestation au baptême ou dans les tentations, ce qui se jouait, c'était surtout le rapport de Jésus à son Père, avec en même temps déjà quand même une présence de l'Esprit. On voit l'Esprit descendant du ciel, etc. Dans le discours sur la montagne, Jésus nous tourne surtout vers la figure du Père, avec au cœur l'enseignement du Notre Père. Faites les choses non pas pour le regard des hommes, mais pour votre Père qui voit dans le secret, etc. Insistant sur le Père, dans le discours sur la montagne. Dans la section de récit des chapitres 8-9 qui suit, bien sûr, l'insistance porte sur la personne de Jésus, le Fils, son identité. Qui est-il, celui-là, quand même, le vent et la mer lui obéissent. Et dans nos chapitres, on va voir au chapitre 11. Au centre, il y a une exultation là, de Jésus qui célèbre la révélation
que le Père fait au Fils et que le Fils peut partager alors au Petit. Ça sera en 11-27. Donc au chapitre 11, on va voir la manière dont la relation filiale de Jésus avec son Père nous est transmise, communiquée. Et au chapitre 12, il va y avoir une insistance sur l'Esprit Saint. Parce que, à l'encontre de l'accusation, c'est par Béelzéboul, eh bien, c'est par son exact opposé, à savoir l'Esprit de Dieu, que Jésus chasse les démons. Le chapitre 10, du point de vue de l'histoire du salut, on pourrait dire jouer sur trois plans temporels. Le plan du Jésus d'avant Pâques, au moment où il fait ce discours à ses disciples pour les envoyer, le temps du Jésus terrestre, mais déjà en filigrane le temps des persécutions d'après Pâques, au moment où l'évangile est rédigé. Vous serez traînés devant des tribunaux, des sanhédrins, des gouverneurs, etc. C'est ce qui advient à un moment donné aussi aux premiers chrétiens. Et puis, il y avait la perspective du temps, la dimension du temps final, eschatologique, jusqu'au retour du Christ. Donc, trois niveaux temporels. Alors, dans nos chapitres, va s'en ajouter, si je puis dire, un quatrième en amont, à savoir tout le temps de l'attente de l'Ancien Testament. Dans l'arrière-fond, va être fortement marqué. On va avoir des citations d'abord de livres de l'Ancien Testament, que ce soit Isaïe, une citation de l'Exode, du prophète Malachie, etc. On va voir apparaître, convoquer dans le propos de Jésus, des personnages de l'Ancien Testament, Élie, Jonas, Salomon, Ninive, Sodome. Jésus rappelle des épisodes de l'Ancien Testament pour s'appuyer dessus et avertir d'autant plus ses auditeurs. Et puis interviennent des questions autour des institutions de l'Ancien Testament, ce qui est permis le jour du sabbat. Et Jésus, dans sa réponse, va parler de ce qui se passe autour du temple, ce que David a pu faire dans le temple, etc. Donc on voit que sont repris, on va voir dans les chapitres 11-12, les niveaux temporels ou chronologiques du temps de Jésus terrestre, du temps après Pâques et puis du temps de la fin du temps, mais je dirais sur la base d'une première strate temporelle qui est toute l'attente de l'Ancien Testament et ce qu'elle annonce déjà. Et la manière dont Jésus s'appuie sur ses réalités, ses figures, ses paroles de l'Ancien Testament pour argumenter son propos. Alors je vais dégager, si vous voulez, la structure un peu globale de ces chapitres 11 et 12, simplement, faire comprendre un peu la raison d'être du lettrage proposé par le père Jean Hadermacher, ce que vous avez dans vos feuilles. Vous vous souvenez, par exemple, pour le chapitre 10, une petite structure concentrique, hein, où A et A' se répondaient aux extrêmes, et puis plus à l'intérieur, B', etc., et qui nous mettait sur ce petit centre, le disciple est semblable à son maître, il n'est pas plus grand que son maître. Ici, on va voir une structure, Jean Hadermacher discerne, une structure en parallèle, avec dans chacun des deux chapitres, cinq temps. Qui lettre A, B, C, D, E, dans le chapitre 11, et puis il reprend hein, A, B, C, D, E, dans le chapitre 12. Alors, j'en rends brièvement compte, c'est pour voir un peu le mouvement d'ensemble. Et comme on l'a déjà vu, les parallèles, quand on compare ce qui est parallèle, on note aussi des différences, et donc sur les divers points mis en relation, en comparaison des avancées du texte. Il y a une dynamique du texte. Je vais écrire au tableau les références et puis commenter brièvement. Et après cela, je pointerai simplement deux, trois passages un peu plus déterminants du texte. On va faire un peu plus un commentaire un peu précis.
au chapitre 11 et au chapitre 12. A, B, C, D, E. Yes. A, B, C, D, E.
C'est des propositions de structuration à ne pas forcer, ce n'est pas un théorème de mathématiques, mais si on a un certain nombre d'indices, ça peut être un éclairage sur la façon dont Matthieu écrit et qui, souvent, est plus construite qu'il n'apparaît à première.
Alors, A, je note d'abord les séquences, c'est 11 de 2 à 6. B, c'est 11 de 7 à 15. C, c'est 11 de 16 à 19. D, c'est 11 de 20 à 24. Et enfin, E, 11 de 25 à 30. Pour le chapitre 12, le A, c'est les versets 1 à 14. Le B, c'est les versets 15 à 23. Le C, c'est les versets 24 à 37. D, les versets 38 à 45. Et enfin E, les versets 46 à 50. Alors, sous quel angle de vue y a-t-il mis un peu en parallèle de ces deux séquences? Si vous regardez ce qui se passe en 11, 2 à 6, on commence par une question. Entendant dans son cachot les œuvres du Christ, la question que Jean-Baptiste fait poser par ses disciples. Donc, question du Baptiste. Et la réponse que Jésus fait, avec, à l'appui d'une citation d'Isaïe, dont on va voir le rôle décisif. En 12, 1 à 14, on voit que Jésus est interpellé, les pharisiens lui dirent, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire, et puis Jésus répond à travers une question. N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, etc. Et puis surtout, dans la seconde partie, ce jeu de questionnement de réponse se précise. Il vint dans leur synagogue, au verset 9. Voici, un homme à la main sèche, ils l'interrogèrent en disant, dis-nous s'il est permis, et cela pour l'accuser. Et Jésus répond, lequel d'entre vous, s'il a une seule brebis, etc. Donc, le jeu d'une question un peu agressive, là, question des gens dans la synagogue, et la réponse de Jésus. Chacune des séquences introduit ce genre dialogal, mais dialogal un peu tendu, la controverse. Alors, les séquences B sont à l'enseigne de l'identité de Jean-Baptiste et de Jésus. Et cela par le biais de citations introduites par le petit vocable « voici ». Par exemple, dans 11, 7 à 15, comme ceci allait, Jésus commença à dire aux foules, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé considérer vers le désert, un roseau agité par le vent, etc. ?» Jésus les fait réfléchir sur l'identité du Baptiste, un homme habillé de vêtements délicats, un prophète. Et il donne une réponse. Oui, je vous le dis, un homme supérieur à un prophète, car celui-ci est celui dont il est écrit, voici. Donc, la question ici, c'est... Jésus commence à faire réfléchir sur l'identité de Jean-Baptiste et l'explicite à partir d'une citation tirée de l'Exode, voici, j'envoie un ange devant ta face qui préparera ton chemin devant toi. Jean-Baptiste est donc identifié comme le préparateur direct du Seigneur. En 12, 15 à 23, on a la révélation de l'identité de Jésus à la faveur de nouveau d'une citation, et de nouveau une citation d'Isaïe, hein, comme voici, et puis c'est Isaïe qui est cité. Bien, là, c'est la question de l'identité de Jésus. Et de nouveau, pour la manifester, on a une citation qui parle de lui et qui est de nouveau tirée du prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui s'est conclu mon âme, etc. Et on voit que Jésus va faire réfléchir sur la relation qu'il y a entre la capacité de discerner l'identité du Baptiste et la capacité de discerner son identité à lui. Les deux vont ensemble. Celui qui est incapable d'accueillir Jean-Baptiste comme un vrai prophète et un précurseur est incapable d'accueillir celui qu'il annonce. Donc, question d'identité. C et C' prime, il y a chaque fois un discernement qui s'opère, et un discernement de cette génération-ci par la sagesse, ou bien des esprits. Par quel esprit Jésus agit-il ? Est-ce que c'est par Belzéboul ou par l'Esprit Saint ? Donc, le vocabulaire du discernement et avec la mention de cette génération et la finale de chacune des deux séquences. Donc il y a une question de discernement et la finale chaque fois est à l'enseigne du vocabulaire d'une justification. La séquence de 11 à 16, 19 se termine à propos « Est-on capable de discerner les rôles respectifs de Jean-Baptiste et de Jésus ?» L'un qui entend des chants de deuil, l'autre qui vient mangeant et buvant avec les pécheurs, et on critique l'un et l'autre, aussi bien de Baptiste que de lui, mais la sagesse qui s'est discernée est justifiée par ses œuvres. Donc, discernement. Et qu'est-ce qui justifie Jésus ? C'est les œuvres qu'il accomplit. Comme il l'a dit dans sa réponse à Jean-Baptiste, d'ailleurs. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez et entendez, les pauvres sont évangélisés, les aveugles voient, etc. Donc, la question de la justification, là nous sommes au verset 19, donc le dernier verset, tandis que dans la séquence du verset 24 à 37 du chapitre 12, vous voyez au verset 37, là où le discernement porte sur la capacité de voir que Jésus n'agit pas par Belzéboul, mais au contraire par l'Esprit de Dieu, c'est ça l'objet du discernement, il répond en disant, verset 37, « D'après tes paroles, au jour du jugement, tu seras justifié, d'après tes paroles, tu seras condamné. » Si tu as dit que c'est par Belzéboul, tu vas être condamné. Si tu as pu reconnaître que c'est par la présence de toi de Dieu, tu seras justifié. Donc, de nouveau, le vocabulaire de justifier, qui marque le dernier verset de la séquence, comme ici. Dans les séquences D, se déploie le vocabulaire du jugement. En 11, 20 à 24, vous voyez, largement, Jésus commence à s'en prendre aux villes où étaient arrivés ces gestes de puissance, parce qu'elle ne s'était pas convertie, hélas pour toi, Chorazin, Bethsaïde, etc. Eh bien, je vous le dis, au jour du jugement, pour Tyr et Sidon, ce sera plus tolérable que pour vous. Et toi, Capharnaüm, etc. Pourtant, je vous dis, pour la terre de Sodome, pardon, ce sera plus tolérable au jour du jugement que pour toi. Donc, la perspective, ici, qui est fortement marquée, d'un jugement, et qui est corollaire d'un appel à la conversion. On sera jugé durement dans la mesure où on refuse de se convertir. De même, dans la séquence D du chapitre 12, des 38 à 45, si vous regardez, des scribes et des pharisiens disent « Maître, nous voulons un signe venant de toi. » Jésus répond « Génération méchante et adultère, il ne vous sera pas donné d'autre signe que de Jonas. » Il rappelle « Jonas, 3 jours dans le ventre du monstre marin, ainsi le Fils de l'homme, dans le cœur de la terre, 3 jours, 3 nuits. » Et puis, des hommes de Ninive se dresseront au jugement avec cette génération, la condamneront parce qu'ils se sont convertis à la proclamation de Jonas. De nouveau, le binôme jugement-conversion. Nous sommes en 12:41. Et la reine du Midi se réveillera au jugement de nouveau. Elle condamnera cette génération, justement, parce qu'elle ne s'est pas convertie non plus. Donc, la question du jugement, ici, et de l'appel à la conversion. Enfin, dans la séquence finale, on voit que Jésus nous parle de son rapport à ceux qui accueillent les tout-petits ou bien ses disciples. En 11, 25, 30, Jésus répond, « Je te confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre, et le point d'assistance, tu as révélé cela aux tout-petits. » Et l'invitation à se faire disciple, un peu plus loin, verset 29, « Prenez mon joug et apprenez, soyez disciples littéralement de moi, car je suis doux et humble de cœur. » De même, en 12, 46 à 50, on termine sur la question de la qualité de disciples. « Qui sont ma mère et mes frères ?» Verset 49, « Étendant sa main sur ses disciples, voici ma mère et mes frères, celui qui fera la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Et vous voyez que dans l'une ou l'autre séquence, donc on termine sur les bénéficiaires de la révélation, si je puis dire. Exprimé ici en termes de tout-petit, ici les bénéficiaires et déjà les disciples, c'est celui qui se fait disciple. Et de part et d'autre, il est question du Père, puisque c'est en louant le Père que Jésus dit « Eh bien, cette révélation, en fait, elle m'est confiée par mon Père et le Fils l'a fait connaître au tout petit. » Donc la figure du Père qui est importante ici, et la figure du Père qui intervient à la fin de notre chapitre hein, « Quiconque fera la volonté de mon Père qui est aux cieux. » On se rappelle hein, le sermon sur la montagne, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère, et cela en montrant ses disciples. Donc la mention du Père, là nous sommes en 12:50. Voilà, on entre déjà dans un certain nombre de thèmes importants du passage, mais le propos c'était de vous montrer les points d'appui, je dirais, assez. Littéraux, selon lesquels Jean Habermas propose de voir deux chapitres qui présentent un certain parallélisme entre les séquences. Et comme toujours, c'est une accumulation, une certaine convergence des arguments qui rend la structure proposée plausible. Il y a quand même pas mal d'éléments qu'on a pu dégager. Alors je vais prendre, comme je l'ai dit, puisque le temps nous est compté, même, je vais prendre simplement le commentaire un peu plus détaillé de 2-3 passages. Je commence par le début du chapitre 12. Jean, entendant dans son cachot les œuvres du Christ, hein, et Jésus va terminer en disant « La sagesse a été justifiée par ses œuvres » au verset 19. Entendant dans son cachot les œuvres du Christ, mandant ses disciples, il dit « Toi, es-tu celui qui vient, ou en attendons-nous un second ?» Répondant, Jésus leur dit « Allant, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. » Et regardez, des aveugles recouvrent le regard,
des boiteux marchent, des lépreux sont purifiés, des sourds muets entendent, des morts se réveillent et des pauvres sont évangélisés. Et puis, il ajoute, heureux qui ne sera pas scandalisé par moi. C'est-à-dire que sa manière d'agir, d'aller vers les pauvres, etc., va être objet de scandale. Vous voyez l'importance, annoncer à Jean deux choses, ce que vous entendez et regardez. Or, ce sont les termes structurants de la citation elle-même, d'Isaïe. Des aveugles lèvent le regard, ça c'est la vision, et puis un peu plus loin, des sourds muets entendent, entre autres. Et plus loin, Jésus va renchérir à propos de Jean-Baptiste, dans le désert, qu'êtes-vous allé voir, Jean-Baptiste ? Et on va retrouver le binôme de l'écoute de la vision fortement dans le chapitre des paraboles. Et donc on voit que, si je puis dire, que la question d'entendre et voir est dans la citation, elle est dans sa réalisation, puisqu'il leur est donné d'entendre et de regarder, et de constater que ce sont des aveugles qui voient et des sourds, entre autres, qui entendent. Ce qui veut dire qu'il y a derrière là une invitation à prendre conscience de notre propre aveuglement des yeux et surdité des oreilles sur le plan spirituel. Jésus guérit physiquement des sourds et des aveugles, mais c'est comme une parabole de la guérison spirituelle de nos surdités et de nos aveuglements qui se joue là, si je puis dire. D'ailleurs, au chapitre 9, on avait terminé quand même par la guérison, il y avait eu des guérisons d'aveugles, de sourds-muets. Et c'est une chose qui reviendra ici. Donc, importance, situation, et puis la béatitude, heureux, celui qui ne sera pas scandalisé par moi. On verra dans le chapitre des paraboles que l'œuvre du mauvais, qui prend le bon grain, vient et fait un travail de scandale, c'est-à-dire d'obstacle à la parole de Jésus, d'être obstacle à la parole de Jésus. Donc, vous voyez cette citation d'Isaïe, est particulièrement importante. Je dis un mot d'un autre passage, à savoir la confession de foi de Jésus. C'est à la fin du chapitre 11, sa séquence E. En ce moment-là, répondant, Jésus dit, « Je te confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ceci aux sages et aux compréhensifs, et tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, parce qu'ainsi est arrivé ton bon plaisir devant toi. » Donc Jésus commence par s'adresser au Père. Il parle au Père en deuxième personne. Et puis il nous parle du Père. Verset 27. « Tout m'a été livré par mon Père, et personne ne reconnaît le Fils sinon le Père. Nul ne reconnaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils décidera de le révéler. » Donc vous voyez qu'il est question de la relation du Père au Fils, une relation de révélation, mais évidemment en vue des destinataires invités à y entrer, les tout-petits, selon le verset 25. Ceux à qui le Fils décidera de le révéler, verset 27. Donc Jésus parle au Père, Jésus nous parle du Père, et puis Jésus nous parle directement, verset 28. Les versets 28, 29, 30 sont propres à Matthieu. Alors, venez auprès de moi, vous tous qui peinez et êtes sous le fardeau, et moi je vous ferai reposer. Levez mon joug sur vous et apprenez, littéralement soyez disciples de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Vous savez que c'était une des béatitudes. Le vocabulaire de la douceur et de l'humilité est relativement rare. Ça revient dans les béatitudes. Ici, et au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem, comme un roi doux et humble. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Donc Jésus confesse le Père en notre présence, puisque l'évangéliste le rapporte, il nous parle du Père,
nous aide à comprendre que nous sommes de ceux auxquels le Fils décide de révéler le Père, et justement, alors, invite à venir à lui lorsque nous peinons sous le fardeau. Alors là, il y a deux arrière-fonds d'Ancien Testament qui sont intéressants dans les livres de la sagesse, par exemple, pour que vous compreniez que Jésus, même s'il n'y a pas toujours de citation explicite, il y a des passages d'Ancien Testament qui sont à l'arrière-fond. Dans le livre de l'Ecclésiastique, le livre de Ben Sirac, le sage. Écoute mon fils, il est en train de parler à son fils de la sagesse, de Dame Sagesse. Écoute mon fils, engage tes pieds dans ses entraves, ton cou dans son collier. Un peu comme on prend le joug, ton cou dans son collier. Présente ton épaule à son fardeau. De toute ton âme, approche-toi d'elle. Venez à moi. Et pour prendre mon fardeau. De toutes ses forces, suis ses voies. Mets-toi sur sa trace, sur cela, elle se fera connaître, car à la fin, tu trouveras en elle le repos. Et puis un petit peu plus loin, deux versets plus loin, son joug sera un ornement d'or, ses liens des rubans de pourpre. Donc ce qui est dit de se mettre à l'école de Dame Sagesse, en quelque sorte, Jésus le reprend par une série de termes à propos de lui-même. Les termes, présenter son cou à son collier, prendre son fardeau, s'approcher d'elle, venez à moi, trouver en elle le repos, vous trouverez le repos pour vos âmes, et puis encore la mention du joug. Ça, c'est un passage au livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 6, les versets 24 à 30. Alors, dans le même livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 51, là nous sommes vers la fin, les derniers versets du livre, « Approchez-vous de moi ignorant, mettez-vous à mon école. Pourquoi être encore dépourvu de sagesse quand votre gorge en est si assoiffée? J'ai ouvert la bouche pour parler. Mettez votre cou sous le joug, que vos âmes reçoivent l'instruction. Voyez de vos yeux, j'ai eu peu de mal pour me procurer beaucoup de repos. Vous trouverez le repos pour vos âmes. » Là, nous sommes au chapitre 51 de l'Ecclésiastique, c'est dans les derniers versets. « Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur, ne rougissez pas de le louer. » Comme Jésus est en train de le faire en confessant le Père ici. Voilà deux passages du livre du Siracide, Ben Sirac le Sage, qui ont pu inspirer Jésus. Mais ce n'est plus simplement se mettre à l'école de Dame Sagesse, qui est comme une figure allégorique, mais à l'école de la personne même du Christ. Voilà pour ce passage. Enfin, quelques mots. Vous notez au chapitre 12, les versets 17 à 21. C'est une citation d'accomplissement qui est propre à Matthieu dans son déploiement ici. Donc c'est le début du premier chant du serviteur, comme je disais. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera aux nations un jugement. Et la mèche, il ne l'éteindra pas jusqu'à ce qu'il ait conduit le jugement vers une victoire et en son nom des nations espéreront. On comprend à ce moment-là que le vocabulaire du jugement que Jésus a utilisé pour dire au jugement ce sera moins sévère pour Sodome et Gomorre, etc., tiré ci donc pour vous, il est tiré du vocabulaire d'Isaïe lui-même. Et que la perspective du jugement, qui nous apparaît c'est grave et sévère, et c'est sûr qu'il est à prendre au sérieux, mais ici est envisagé jusqu'à ce qu'il ait conduit le jugement vers une victoire. Et en son nom, des nations espéreront. Il y a comme une ouverture. Alors verset 22, « Alors fut porté auprès de lui un démoniaque aveugle et sourd-muet. » Guérison de la surdité et guérison de l'aveuglement. Pour conclure la séquence. Enfin, sur la question de l'invective forte qui termine, qui poursuit le chapitre 12, les pharisiens dirent « Celui-ci ne jette pas dehors les démons, sinon par Beelzéboul, chef des démons. » Matthieu 12, 24. Sachant leur sentiment, Jésus répond, d'abord par
la dialectique du royaume divisé contre lui-même et qui risque de s'écrouler, et à l'accusation de jeter les démons par Belzéboul, il prend l'exact contre-pied, 28, « Si par l'Esprit de Dieu, moi je jette dehors les démons. » Ce n'est pas du tout par Belzéboul, mais c'est par son exact opposé, l'Esprit de Dieu. « Alors, en fait, le royaume de Dieu vous a atteint. » Ce n'est pas un royaume divisé que celui du Christ, c'est un royaume qui unifie et qui vous a atteint. Souvenez-vous, puisque là, le royaume de Dieu s'est approché. Maintenant, je vous dis, à travers mon agir, vous pouvez constater que le royaume vous a vraiment rejoint et atteint. Et puis la question, justement, dans la foulée de l'affirmation « Je jette dehors les démons par l'Esprit de Dieu », c'est là la réponse de Jésus, et bien, dans la foulée, la question du blasphème de l'Esprit, au verset 31. « Je vous dis, tout péché blasphème sera pardonné aux hommes, or le blasphème de l'Esprit ne sera pas pardonné. Celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Celui qui dira une parole contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. » Jésus nous met devant, en fait, une impossibilité. Si nous refusons l'Esprit, nous refusons la puissance même par laquelle il peut nous libérer et nous pardonner. C'est pour ça qu'il dit, celui qui blasphème contre l'Esprit, il ne sera pas pardonné. C'est pas comme une sorte de vengeance de Jésus, mais c'est de dire, vous ne pouvez pas, si vous blasphémez contre la puissance, l'Esprit dans lequel vous pouvez être pardonné, mais rien à faire, vous vous y fermez. Et ce n'est pas possible de vous pardonner. Donc c'est un appel à ouvrir, justement, son cœur à la présence de l'Esprit Saint, eh bien, par lequel Jésus est en train, dans le royaume, de nous rejoindre. Voilà quelques passages un peu plus décisifs de ces chapitres 11 et 12. Jeudi, nous entrons dans le chapitre 13. C'est que le chapitre suivant est un chapitre de parabole que vous connaissez bien. Le premier verset. Ce jour-là, sortant de la maison, Jésus était assis le long de la mer, s'assemblèrent auprès de lui des foules. De sorte que montant dans une barque, il était assis, toute la foule se tenait debout sur le rivage et il leur parla beaucoup en parabole. Verset d'introduction qui situe le cadre. On est en dehors de la maison pour commencer. Et puis à un moment donné, au verset 36, il y aura un changement. Laissant les foules, il vint vers la maison. Ça va être un indice d'un changement dans le chapitre. Mais toujours est-il, d'abord, à l'extérieur de la maison, on est assis le long de la mer et la foule est sur le rivage. Or, à la fin du chapitre en parabole, il est question quand même d'une image du filet rempli en 13:47. Le royaume des cieux est semblable à une scène, c'est-à-dire une forme de filet, jetée vers la mer qui rassemble toutes sortes de choses. Quand elle est remplie, on la hale sur le rivage et s'asseyant, comme Jésus, comme les foules sont assises sur le rivage pour écouter, la foule. Jésus est assis et la foule se tient debout, et bien s'asseyant, il recueille les belles choses dans des paniers et jette les autres. Or, le vocabulaire du rivage, c'est un terme technique très spécifique, agialium dans le grec, qu'on trouve qu'à ces deux endroits-là, au tout début du chapitre, pour nous dire la foule est sur le rivage, en train d'écouter Jésus, et dans la dernière image que Jésus utilise pour dire le tri aura lieu sur le rivage, où vous êtes. C'est comme si à l'intérieur de l'image qu'il utilise, il intégrait la situation, l'énonciation dans laquelle il est. Donc ça c'est une manière d'encadrer le propos, et de faire comprendre que les paraboles que Jésus, les images que Jésus va utiliser concernent directement son auditoire dans la situation où il est. Alors dans ce chapitre ainsi encadré, on voit bien les extrêmes, je vous ai déjà donné un indice d'une charnière vers le milieu, au verset 36. Laissant les foules, Il vint vers la maison et ses disciples vinrent auprès de lui. Au début, c'était en présence des foules sur le rivage. Maintenant, on est dans la maison, c'est des disciples. Et en disant, explique-nous la parabole des ivrées dans le champ. Quels sont les changements? Là, c'est versets 35-36. Jésus change d'auditoire. Il parlait aux foules. Bien sûr, les disciples n'étaient pas exclus, mais en présence des foules. Et à la maison, il va privilégier ses disciples. Il change de lieu. Il est allé sérieux sur le rivage. On entre dans la maison. On change aussi de genre littéraire. Jusqu'ici, on a eu l'énoncé d'une histoire. On racontait une histoire. Et maintenant, on va expliquer l'histoire. C'est autre chose. De raconter une histoire et puis de prendre le temps pour ses disciples de l'expliquer. Avec entre les deux, une pause où Jésus s'explique sur le pourquoi du genre parabolique lui-même. Au verset 34-35, on verra. Et enfin, donc vous voyez qu'on change d'auditoire, qu'on change de lieu, qu'on change de genre littéraire. Et enfin, la seconde partie est largement propre à Matthieu aussi. Il y a aussi une spécificité des versets à partir du verset 35-43. Puisque la parabole du bon grain et des ivrées a déjà été propre à Matthieu quand même, forcément son explication sera propre à Matthieu. Mais aussi les images qui suivent, le trésor caché, la perle précieuse, le filet rempli, l'allusion à la consommation à la fin des temps, et puis la dernière question, avez-vous compris tout ceci? Oui, en raison de ceci, tout scribe fait disciple est semblable à un maître de maison qui jette dehors de son trésor du neuf et du vieux. Tout ça, tous ces versets, 44 à 53, sont propres à Matthieu. Donc, jusqu'à la fin, à partir du moment en charnière, jusqu'à la fin, on est dans des versets qu'on ne trouve que chez Matthieu. Alors, on a, bien sûr, tout comme on a vu dans le discours sur la montagne des propos de Jésus rassemblés, dans le chapitre 8-9 des actes de Jésus rassemblés, ici, on a des paraboles rassemblées. Ça ne veut pas dire que c'est les seules paraboles de l'Évangile, mais je dirais... Pratiquement tout le chapitre est consacré à l'énoncé, à l'explication de paraboles, à la réflexion sur le genre parabolique. C'est pourquoi on dit le discours en parabole. On a le discours sur la montagne, le discours dans la mission, le discours en parabole. En fait, il y a deux grandes paraboles comme telles, un peu déployées. Celle de, du semeur, bien sûr, qu'on connaît bien. Et son explication, et puis la parabole, comme vous disiez, du bon grain et des ivrées. Le royaume de Dieu a été assimilé à un homme qui a semé de la belle semence dans son champ, mais voilà que pendant la nuit, les hommes dorment, son ennemi vient semer l'ivraie, etc. Et la question est qui renvoie alors à la fin des temps où aura lieu à ce moment-là le départage. Donc deux grandes paraboles, celle du semeur et celle du bon grain et de l'ivraie, avec leurs explications respectives. Et puis, je dirais, cinq images plus réduites. Ce n'est pas vraiment des paraboles. Dans l'histoire du bon grain ou du grain livré, il y a une histoire avec des personnages et un fil narratif. Tandis que les autres, c'est plutôt de brèves images, un peu plus brèves. Le grain de moutarde, même s'il y a des acteurs qui les semaient aussi, hein. Le ferment dans la pâte, le trésor caché dans le champ, et là ça prend chaque fois un ou deux versets, la perle précieuse, le filet rempli. Et avec chaque fois le leitmotiv, semblable est le royaume des cieux à. On est en train de donner des paraboles du royaume, qui exemplifie la présence du royaume. Donc deux grandes paraboles et leurs explications. Cinq images plus réduites, mais entre lesquelles on peut constater certains enchaînements. Par exemple, pour le semeur, le bon grain est livré, la graine de moutarde, il est quand même question de semailles au départ, quelque chose qui est semé. Et le bon grain est semé dans un champ, et l'ennemi sème dans le champ aussi du mauvais grain. Le grain de moutarde, c'est un homme qui prend le grain de moutarde et le sème dans son champ. Alors le bon grain est livré et la graine de moutarde sont liées par la notion de grandir. Laissez-les grandir ensemble jusqu'au jour où le grain de moutarde qui grandit tellement est un arbuste. Alors le ferment, la quatrième image, le ferment, il est pris par la femme et caché dans des mesures de farine. Semblable est le royaume de Dieu, des cieux, à du ferment, que prenant une femme cacha dans trois mesures de farine jusqu'à ce que tout soit fermenté. Verset 33. Et il le cache. Il n'est pas simplement, elle le met. Il le cache, il est enfoui, il n'apparaît pas. Mais il va faire lever la pâte et à un moment donné, on va se rendre compte, le fruit de son action va apparaître. Alors après ça, Jésus, au verset 35, va dire, je leur parle en parabole, en vue que s'accomplisse ce qui fut dit par Isaïe le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Jésus est en train de faire une révélatrice de ce qui est caché. Et puis, ce qui est caché, ça va devenir le trésor qui est caché dans un champ. Donc vous voyez qu'il y a des fils ainsi, des fils lexicaux entre les passages. Et ici, on voit bien que le schème de passer du caché à ce qui devient manifeste, révélé, ça c'est un schème qu'on appelle de dévoilement, un schème apocalyptique aussi, où les choses qui étaient cachées eh bien, viennent au jour.
Dévoilement en schéma apocalyptique.
Apocalypto, ça veut dire dévoilé. Une sorte de schéma, de processus apocalyptique. Ça veut dire on passe de ce qui était caché à ce qui devient révélé. Et ça qualifie le langage parabolique lui-même, puisque en première vue, on entend une histoire, on ne la comprend pas. Il y a un sens qui est caché. Et c'est l'explication de Jésus aux disciples qui va faire venir le sens au jour, qui va le révéler. Donc Jésus est en train de faire une œuvre de dévoilement. Et il le dit. Le narrateur nous le dit au verset 34, en dehors des paraboles, il ne leur parlait pas, pour que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète, j'ouvrirai en parabole ma bouche, je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Donc on voit ici que la dynamique positive des paraboles, qui ont pour fonction de faire accéder à quelque chose de caché. Mais en même temps, qui n'est pas évident, parce qu'il faut ouvrir son cœur, ses oreilles, ses yeux, pour y avoir accès. Et là, je remonte un peu dans le texte et je commente, pour terminer un peu le passage du chapitre 13, les versets 13 et suivants. Jésus donc, a dit la parabole du semeur. Et puis, il va faire un break, si je puis dire, avant de donner l'explication, entre l'histoire racontée et son explication, il y a tout un passage sur pourquoi parler en parabole. Et là, il va s'appuyer sur Isaïe. Regarde. Je leur parle en parabole pour ceci. Parce que, regardant, ils ne regardent pas. Entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et s'accomplit pour eux le prophète Isaïe qui dit, d'entendement vous entendrez et ne comprendrez pas. Regardant, vous regarderez, mais ne verrez pas. Car il s'est épaissi le cœur de ce peuple-ci. Des oreilles, ils ont entendu lourdement. Leurs yeux, ils les ont bouchés. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et de leurs oreilles, ils n'entendent. Et que de leur cœur, ils ne comprennent, et ils se retournent. C'est la conversion, ça. Mais je les rétablirai. Isaïe 6, 9 à 10. Or, heureux vos yeux parce qu'ils regardent, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Car en vérité, je vous dis, de nombreux prophètes et justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parabole de celui qui sème. Celui qui entend la parole et commence à expliquer. Vous vous souvenez de la question de Jean-Baptiste hein, et la réponse de Jésus. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous entendez et regardez. Hein, il avait dit que ce binôme était important. Mais voilà, ici, vous avez quand même six fois le binôme entendre, regarder, ou bien oreille, yeux, etc. Hein, si vous reprenez, vous pouvez reprendre le texte pas à pas, au verset 13, au verset 14, deux fois au verset 15, au verset 16 et encore au verset 17. Et ce vocabulaire, de nouveau, Jésus l'adopte, mais en le puisant dans les termes même d'Isaïe, puisque c'est Isaïe qu'il cite. Mais chez Isaïe, il y a un troisième terme qui est intéressant. Il n'y a pas simplement les yeux et les oreilles, mais il y a le cœur qui intervient deux fois. Verset 14. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent, qu'ils entendent sans comprendre, qu'ils regardent sans vraiment voir hein? Parce que leur cœur s'est épaissi. Et c'est pour ça que leurs oreilles sont lourdes et que leurs yeux sont bouchés. Et puis il reprend au verset, à la fin du même verset 15. De peur que de l'oreille n'entende, et que de leur cœur ils ne comprennent, et se retournent, se convertissent. Mais je les rétablirai. Autrement dit, la surdité et l'aveuglement, qui désignent et qui sont paraboliquement exprimés par l'écoute et le regard extérieur, hein, mais procèdent d'un cœur fermé. Et si on a le cœur ouvert, à ce moment-là, les oreilles peuvent s'ouvrir et le regard peut. Et on peut, en ayant les oreilles ouvertes, comprendre ce qu'on entend quand Jésus parle en parabole. Et on peut aussi comprendre ce qu'on voit quand Jésus agit et opère des miracles. C'est le royaume qui s'approche. Celui qui a le cœur ouvert va pouvoir mieux comprendre ce que Jésus dit. Et comprend ce que Jésus donne à voir en agissant. Donc vous voyez que c'est central. Puisque je vous ai dit, tout l'évangile est structuré quand même sur l'alternance entre ce que Jésus fait et qui se donne à voir, c'est les portions de récit, et ce que Jésus dit et qui se donne à entendre, c'est les discours. Alors si vous avez, avec un cœur ouvert, les yeux pour voir, vous allez comprendre la portée des sections de récit. Si vous avez les oreilles ouvertes, vous allez commencer à comprendre les propos, les discours de Jésus. Et alors, je termine par là, à la fin, quand Jésus commence à expliquer la parabole du semeur, vous donc entendez la parabole de celui qui sème, tout qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas, pourquoi ? Parce que vient le méchant et il ravit ce qui a été semé dans son cœur. Dans son cœur. On oublie parfois, on voit la parabole du semeur, c'est une histoire de chemin, de pierrailles, etc. On oublie la mention du cœur. Et c'est parce que le mauvais ravit ce qui a été semé dans le cœur que par là même, l'écoute et le regard spirituel sont oblitérés. Voilà pour. On y reviendra encore un petit peu la fois prochaine, mais vous voyez comment le passage par lequel Jésus explique pourquoi il parle en parabole en s'appuyant sur Isaïe, en termes de regard, d'écoute et d'appel à la conversion du cœur, est assez décisif dans son rôle par rapport à ce qui se donne à voir et entendre dans le reste de l'Évangile. Oui.
J'ai deux questions. Pourquoi une majuscule à méchant ? Pourquoi vous mettez une majuscule au méchant au verset 19?
Ah oui, parce que parce que c'est pour signifier. Oui, mais pour signifier le méchant, le mauvais, pour signifier la personne du mauvais, le Satan. C'est pas simplement les justes et les méchants en général, c'est le méchant, le mauvais. Délivre-nous du mauvais, notre Père. On peut comprendre aussi, pas simplement du mal, mais apôtre Ponerou, ça peut être compris comme un masculin aussi, de celui qui est mauvais. Le méchant et le mauvais. Oui?
Une autre question, c'est qui sont les justes dans le verset 17?
Verset 17. Oui, de nombreux prophètes et justes ont désiré. Ça, c'est une catégorie qui désigne en général les cœurs droits de l'Ancien Testament. Et juste. Le juste est toujours opposé, par exemple dans le psaume 1er, il y a le juste et l'impie. Abraham était juste, Noé était juste aux yeux de Dieu. Joseph, qui était un homme juste au début de l'évangile, je dirais, accueille, n'accuse pas publiquement Marie, mais va l'accueillir. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il nous faut accomplir toute justice. Donc le vocable de juste ici correspond à cette insistance sur la justice du royaume. Et Jésus va, comme j'ai dit, ici il s'appuie aussi sur les préparations dans l'Ancien Testament et il rappelle les prophètes, les justes de l'Ancien Testament et fait comprendre que par rapport à leur attente, ces auditeurs d'aujourd'hui ont une chance incroyable, c'est qu'ils assistent à la réalisation de ce qu'eux ont désiré sans encore pouvoir le voir ni l'entendre. Alors que eux, c'est quand même le jour où ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient en présence du Messie lui-même et qu'ils l'avaient à 3 mètres 2 pour le contempler et l'entendre, ça quand même, spirituellement, c'est quand même fameux. Mais la même chose peut nous advenir dans la prière sincère.
Est-ce que le juste là, l'idée de prendre, c'est le point de départ pour les justes des nations?
Et alors
de là?
Oui, donc par les juifs, par rapport à la...
Ceux qui ont fait du bien.
Oui.
Les juifs en danger.
Oui, oui. Quand les juifs, hein, parce que c'est les juifs qui les appellent comme ça, les justes des nations, ils comprennent que, je vous dirais, le cœur ajusté devant Dieu a pu étonner aussi à des habitants des nations. Voilà.
Pour la notion de cœur, je crois comprendre que le cœur qu'on entendait à l'époque de Jésus, ce n'était pas quelque chose de romantique.
Ah non, le cœur en langage biblique, c'est vraiment le centre de décision de la personne par rapport à Dieu.
Il n'y a rien de sentimental. Ouais.
Alors parfois, ça peut avoir, un retentissement affectif au niveau de l'affectivité spirituelle, mais la notion biblique de cœur, Jésus dit « je suis doux et humble de cœur », on comprend que ce n'est pas une douceur lièvre ou de sensiblerie. Donc, heureux les doux, je dirais, qui ont la force des colombes, comme dit David.
Donc vous avez dit le cœur comme
centre
de discernement.
Centre de discernement, et puis à partir de quoi l'homme se positionne vraiment par rapport à Dieu et aux autres. Le foyer de la décision spirituelle de l'homme, si vous pouvez dire autrement. Ça va ? Quand vous avez une notion biblique comme ça, vous pouvez toujours aller consulter le VTB, le vocabulaire de théologie biblique. On a même pris un exemplaire à propos. Un certain jésuite appelé Xavier Léon Dufour, qui a des notices sur des thèmes bibliques classés par ordre alphabétique. Cœur, miséricorde, péché, tentation, etc. C'est des notices de théologie biblique, c'est-à-dire qu'il va voir dans un certain nombre de passages bibliques le vocable en question, et il élabore un article où il organise sa matière en disant, voilà, dans le vocabulaire de l'Ancien Testament, par exemple, la notion de juste, le juste veut dire ceci, et puis dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il a généralement cette connotation, et puis chez Saint Paul, il est repris dans ce sens-là, donc il élabore une thématique, et par exemple, à l'article cœur, dans le VTB, je suis sûr qu'il fait 3-4 colonnes, 2-3 pages complètes, c'est central.